France Culture, une mémoire radiophonique.
Quoi de plus français que les plaisirs de la bouche ? Le goût, la saveur, les arômes, la texture, la température, tout concourt à la création d'une émotion qui reste gravée dans nos mémoires. Il y a des plats adaptés aux différentes traditions, aux différents événements. Certains se rappellent du gigot du dimanche midi, d'autres de la ratatouille que faisait leur grand-mère l'été, avec les légumes du jardin. Mais la cuisine n'est pas qu'une affaire de famille. Il existe aussi ce lieu magique, hors du temps, où l'on s'installe quelques heures pour manger des mets que nous serions souvent incapables de préparer nous-mêmes. Le restaurant. Un restaurant est un lieu unique, organique, qui vit et a sa personnalité propre, du bistrot le plus simple à l'établissement triplement étoilé. Derrière chacun de ces lieux se cache une personne qui donne le ton et le tempo, qui est à l'origine de tout le plaisir que ressent le client. C'est le ou la chef. Figure emblématique de la France, symbole indémodable du savoir-faire et de la créativité, les chefs sont des faiseurs de miracles, qui vont chercher le meilleur produit pour le transformer en quelque chose d'exceptionnel. Alors oui, la grande cuisine n'est pas accessible à tous. L'orfèvrerie et le travail acharné ont un prix. Mais ce premier de 4 numéros des Nuits Magnétiques, consacré au plaisir de la bouche de Laure Adler et Bruno Sourcy, offre à tous l'opportunité d'entrevoir ce qui se passe derrière les fourneaux des grands restaurants et dans l'esprit de ces chefs, de ces artisans et artistes exceptionnels qui font passer l'émotion et l'amour par le palais. On y entend une myriade de chefs étoilés, de Bernard Loiseau à Joël Robuchon, en passant par Alain Dutournier, mais aussi des critiques gastronomiques, des écrivains et des écrivaines, ou encore des historiens et des historiennes. Les plaisirs de la bouche, première partie donc, diffusée pour la première fois le 29 décembre 1987, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Alain, s'il te plaît, tu me fais marcher une cervelle.
Toute cette semaine, les plaisirs de la bouche.
Et qu'il y a des Français qui arrivent ici, ils connaissent tout, ils ont tout vu, tout fait, et puis ils connaissent que dalle. Hein. Vous allez chez eux dans leur appartement, puis vous ouvrez les frigos, puis vous voyez les boîtes de conserve, les trucs surgelés, mais ils viennent chez vous, ils critiquent tout cela. Ça, c'est la plus mauvaise des clientèles, cela.
Très très rapidement, quand vous discutez avec un chef, il vous dit comment il a fait ça. Son secret, c'est que lui, il connaît les équilibres, qu'il repère à quel moment il faut mettre le beurre, ou à quel moment il faut mettre la goutte de citron, il faut retirer le filet, etc. Vous avez essayé de faire la même chose, puis ça va être quelconque, alors que chez lui, ce sera fantastique. Mais il n'y a pas le secret, c'est son savoir-faire. Je pense pas qu'il y ait ça me paraît un peu mythique, hein, toutes ces histoires-là. Les chefs qui gardent des secrets. Vous savez, maintenant, on est quand même à l'époque des analyses chimiques et tout. On est capable de définir pratiquement partout ce qu'il y a dans ce qui compose un produit. Hein.
Par exemple, j'adore le navarin d'agneau. Ça, j'aime le faire. Parce que c'est assez. Il faut s'y tenir parce qu'il faut que la viande ne soit pas trop cuite, pas trop. Vous voyez. Est-ce qu'un bœuf carotte. On peut le manger à la cuillère, c'est dans le temps, le bœuf en daube, ce qu'on appelle le bœuf carotte, bœuf en daube, il y en a un qui on met du vin, l'autre on n'en met pas. Ben, le bœuf en daube, pratiquement dans le temps, on le mangeait à la cuillère. Les grands chefs vous diront toujours, je parle des grands chefs, les anciens, c'est à la cuillère. Bien sûr, maintenant, ça ne présente plus si bien, vous comprenez, quand vous le mettez sur l'assiette, c'est meilleur. Dans le temps, non, vous mettez la cocotte sur la table et les clients se servaient.
Je le sens bien maintenant que le restaurant a 2 ans, le fait de retrouver le matin ces sauces, ce goût-là, c'est un plaisir. parce que ces sauces-là, c'est moi. Puis point final.
Sans la tête, s'il vous plaît. Non, videz-le-moi, mais laissez le gésier et le foie. Bruit de casserole, planche de bois, odeur profonde. La porte de la cuisine est toujours à moitié ouverte. Prendre son temps, laisser l'eau frémir, les échalotes revenir, le courbouillon frissonner. Bruit de casserole, carrelage rouge et blanc, la viande commence à roussir, vite le thym et le laurier, puis l'eau citronnée. Le bulletin d'information se termine, le speaker annonce les nuits magnétiques. Tous les soirs, dans la cuisine, dans la chaleur palpable de ces fins de soirée, je fais, avec un plaisir infini, la cuisine. La passion a commencé jeune, collectionneuse de fiches cuisine et de livres de cuisine, j'avais le vertige en feuilletant les recettes. J'imaginais les goûts, les odeurs, les parfums. Alors, vous aussi, sautez du coq au vin, descendez au marché, arrêtez de battre votre mousseline en sachet, allez donc échanger votre four à micro-ondes contre quelques chapons, dirigez-vous vers votre cuisine. Voilà, vous êtes al dente pour écouter Nuit Magnétique, toute cette semaine les plaisirs de la bouche, Bruno Sourcy, Laure Adler. On vous racontera des histoires faites de viande, de laitage, de fruits, des délices obtenus par réduction et bouillonnement, des histoires de pain grillé et de chocolat chaud, de salade de pommes de terre et de marquise au marron, de papilles dilatées et de merveilles de l'enfance. D'un plaisir exquis parce que sublimement éphémère, alors ouvrez la bouche, mais tout d'abord un petit conseil de Monsieur Grimaud de la Reynière. Sous peine de passer pour un huron et de faire rougir un amphitryon qui regarderait l'oubli de cette pratique comme une insulte, dépliez d'abord votre serviette. Qu'est-ce qu'un chef ? Réponse de Fernand qui tient le restaurant chez Fernand.
Ah ben, un chef, il doit savoir tout faire. Un chef, il doit pouvoir d'abord faire ses achats en premier, lui-même, faire toutes ses préparations, faire toutes ses terrines, faire toute sa pâtisserie, diriger sa cuisine et remplacer tout le monde, y compris même en salle, au besoin. Voilà, c'est ça un chef. Un vrai chef. Ben, ça existe, heureusement. D'abord, il y a au moins une dizaine d'années, quand même, d'apprentissage. Je ne viens pas chef du jour au lendemain. En 3 ans d'apprentissage, quand tu sors de l'école, tu ne sais rien faire. Ça a des bases, ça a des notions, mais après, il faut construire. Là, ça demande une dizaine d'années. Quand même, ben oui. Quand même, hein. Faut persévérer tous les jours. Bon, bien sûr, il y a des surdoués, mais il faut quand même, pour devenir un vrai chef, 10 ans, ça représente 10 années de travail. Pour faire plusieurs maisons. Moi, c'est pas mon cas parce que moi, je me suis formé sur le. J'ai eu quelques maisons où j'ai appris beaucoup de. Dans ma jeunesse, où j'ai appris beaucoup de choses, mais je me suis formé pratiquement tout seul, uniquement en persévérant dans les livres de cuisine. Il faut d'abord aimer, il n'y a pas de problème. Si on n'aime pas, c'est pas la peine d'insister. Hein. Il faut lire beaucoup et puis il faut faire cuisiner tous les jours. Moi, c'est différent parce que j'ai commencé déjà par la boucherie, la charcuterie en campagne. D'abord, j'ai été élevé à la ferme. On avait des produits merveilleux. Bon, j'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours aimé les bons produits. Et à partir de là, je me régalais déjà. Déjà étant gamin, je me régalais. Alors maintenant, bon, bah, une fois arrivé à Paris, bon, bah, j'ai quand même appris à, comment dirais-je, le travail de cuisine. Ce que c'est que la cuisine, bon, bah, il faut des années pour arriver à faire ce que je fais maintenant. Bon, il y a longtemps que je me suis fait une petite réputation sympa de gens qui... Ça fait 20 ans que j'ai des clients fidèles, parce que bon, j'ai un style de cuisine qui plaît peut-être pas à tout le monde, mais malgré tout, j'ai une cuisine riche, mais malgré tout, assez légère. Et même très légère, parce que je me souviens, il y a des personnes d'un certain âge qui venaient quand j'étais rue Vercingétorix et qui viennent toujours, qui venaient parce que faire un bon gueuleton, parce que elle me disait en repartant que on aime bien venir chez vous parce qu'on mange très très bien, on mange beaucoup même, et on n'est jamais malade et on est. Ça passe tout seul. Voilà. Même s'ils ont bien mangé, comme on dit jusque-là.
Voilà. Gérard Almandou, chef du restaurant La Cagouille.
J'aime pas le mot de chef. Hein. J'aime pas le mot chef, ça me rappelle l'armée. Hein. Et ça me donnerait une fonction d'adjudant. Ça me fait pas beaucoup. Non, je suis un coordinateur. Je donne la main là où il faut. Je stimule. Je suis l'entraîneur un peu. Je suis l'entraîneur plus que le chef. D'ailleurs, personne ne m'appelle ici chef. Hein. Je m'appelle par mon prénom. Je préfère. Les clients aussi, d'ailleurs. On va lui laisser accès au four, là, parce que sinon... Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où l'équipe est moins en forme. Alors c'est là où peut-être là mon rôle est le plus important, c'est-à-dire à essayer de stimuler un petit peu pour que malgré tout, au niveau qualitatif, ça bouge le moins possible. Quand on est un peu moins bon, on essaie de faire ce qu'il faut pour que le client se le remarque le moins possible. Et une chose très très importante en cuisine, c'est la régularité.
Et d'ailleurs, rappelez-vous, pendant la guerre de 1914, on obligeait les soldats français à boire 3 litres de vin par jour.
Non, je crois que vous exagérez, monseigneur.
Mais nullement. Et malgré ces 3 litres de vin, il y avait encore beaucoup de fuyards. Ces malheureux étaient reçus à coups de mitrailleuse par les gendarmes français. Il y a eu des centaines de morts.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Mais pourtant, c'est bien connu, c'est historique. On dit même que ça s'est passé à Verdun. Et aussi...
Je crois que nous pouvons passer à table. En nous serrant un peu, j'espère que nous y tiendrons tous. Évidemment, les portions sont plutôt restreintes. Mais il reste des œufs, du jambon et du fromage.
Je suis sûr que tout ira bien. Et encore une fois, je suis vraiment confus.
Écoutez, asseyez-vous comme vous pouvez. Un peu de foie gras, colonel.
Avec plaisir.
Michel Crisold, critique gastronomique, Goemio.
Chef, c'est un métier gradé, normal, dans une profession qui a... c'est comme l'armée, hein. Ils ont des grades. Bon, le chef, ça correspond à un grade. Je ne peux pas vous expliquer exactement, vous demander à un chef. Mais ça correspond à quelque chose de très précis. Alors, pour le grand public, le chef, moi, c'est celui qui est responsable de la cuisine qu'on mange dans un restaurant. Depuis une quinzaine d'années, le chef, c'est devenu en plus quelqu'un d'un peu mythique. C'est les grands chefs qui créent la cuisine, nouvelle cuisine internationale ou française, etc. Le chef emblématique, c'est Bocuse, à travers le monde d'ailleurs. Un chef, c'est quelqu'un qui n'aime jamais, par exemple, pour prendre une photo. Un chef ne veut jamais se séparer de sa toque ou se séparer de son tablier blanc. Un chef, ça doit figurer avec son uniforme. En général, ils sont en bonne santé parce qu'ils mangent tous assez bien, quoi, leur propre cuisine. Ils sont en train de faire un grand virage médiatique derrière Bocuse, encore une fois. Enfin, c'est pas une admiration particulière pour Bocuse, mais il a joué un rôle énorme apparemment dans l'état justement de la cuisine française. C'est-à-dire que maintenant, un chef sait qu'à un moment donné, il doit communiquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils savent aussi que les exagérations ne mènent à rien, ni d'un côté ni de l'autre, c'est-à-dire ni les exagérations dans un genre trop terroir, ni les exagérations dans un genre trop nouvelle cuisine. Donc on assiste à un certain rééquilibrage. Ils ont abandonné certaines choses. Par exemple, un vrai chef maintenant ne vous propose plus de saumon fumé ou d'huîtres crues. Un vrai chef doit créer, doit apporter sa création. Ça, c'est quelque chose qu'on sent de manière très générale. Et dernier point que j'ai noté dernièrement, c'est que un vrai chef
actuellement met un point d'honneur à choisir des bons produits. C'est-à-dire qu'un vrai chef doit être capable de vous dire ma côte de bœuf, je vous propose une simple côte de bœuf. Alors c'est quand même simple en cuisine française, ça veut pas dire simple dans le reste du langage courant, hein. Mais la simple côte de bœuf, c'est la meilleure côte de bœuf qu'on puisse trouver à 500 km à la ronde, quoi. Il y a une recherche du bon produit maintenant, qui, bon, par exemple, à l'automne s'exprime prenons l'exemple du gibier. Je sais que les chefs maintenant vont chercher leur gibier, ils sont souvent chasseurs, hein, eux-mêmes. Mais ils vont chasser en Alsace ou ils vont même chasser en Écosse, et que dans la plupart des bons restaurants, le gibier que l'on mange est en partie importé d'Écosse ou a été chassé en Écosse ou en Alsace.
La science gastronomique est devenue à la mode, chacun a voulu s'en mêler. Elle a passé des cuisines et des boutiques, dans les salons, dans les bibliothèques, jusque sur les théâtres. Et nous ne désespérons pas de voir bientôt une chaire de gastronomie s'établir dans nos lycées, disait Alexandre Balthazar Laurent Grimaud de La Reynière dans son manuel des amphitryons en 1808. Aujourd'hui, la grande cuisine fait la une des médias et les grands chefs sont traités avec autant d'honneur que les grands joueurs de foot. Chef, vous avez dit chef, que veut bien dire ce mot et que recouvre-t-il? Réponse de Georges Blanc à Vonnaz, de Jean-Michel Lorrain à Joigny et tout d'abord de Joël Robuchon à Paris.
Un chef, c'est justement celui qui sait manipuler. Vous savez, le chef, c'est celui qui a la tête, qui a les mains. C'est l'outil d'abord du chef. C'est la tête qui travaille sur la main. C'est celui qui pense, qui réfléchit, qui transforme le produit dans le goût recherché.
Un chef, c'est quelqu'un qui a la responsabilité de la cuisine. Aujourd'hui, dans les grandes brigades, il est plutôt chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il est compositeur et chef d'orchestre, il n'est plus instrumentiste, c'est-à-dire qu'il ne tient plus une partie personnellement, mais il contrôle tout ce qui se passe dans chaque partie. Il contrôle en fait la bonne exécution de la partition qu'il a lui-même dirigée.
Le chef de cuisine, lui, doit diriger sa brigade, comme on appelle chez nous, puisque on est quand même une équipe de 15 personnes, jusqu'à 20 personnes en été en cuisine. Donc ça fait beaucoup de monde à diriger. Il y a une hiérarchie en cuisine qui est très, très établie et qui dure depuis longtemps. Et donc, il faut diriger tout ce monde-là. Ça part de l'apprenti, c'est comme ça que j'ai commencé, hein, l'apprenti qui commence le métier, qui n'a aucune base et qui est là pour, au départ, éplucher les pommes de terre et puis petit à petit qui prend des connaissances. Au départ, souvent l'apprenti fait les repas pour le personnel. On est 50 dans la maison, donc ça fait déjà pas mal de travail. Donc ensuite, on progresse et quand on a passé ce qu'on appelle le CAP, donc le certificat d'aptitude professionnelle, on devient commis de cuisine, c'est le deuxième échelon. Et puis donc ce commis de cuisine, lui, est responsable d'un petit peu plus de choses. Et puis quand il a acquis un petit peu de métier au bout d'un an, il peut être premier commis. Alors souvent, c'est un poste qui n'existe pas, suivant que la maison est grande ou pas grande. Mais enfin, chez nous, ça existe. Il y a le premier commis. Puis après, la cuisine étant partagée en plusieurs parties. On a les parties du poisson, la partie de la viande, la partie du garde-manger. Donc on trouve à ce moment-là des chefs de partie. Alors les chefs de partie sont eux-mêmes dirigés par un second de cuisine et puis par un chef de cuisine. Voilà, donc toute la hiérarchie, donc apprenti, commis, premier commis, chef de partie, second de cuisine et puis chef de cuisine.
Mais il reste des œufs, du jambon et du fromage.
Je suis sûr que tout ira bien. Et encore une fois, je suis vraiment confus.
Écoutez, asseyez-vous comme vous pouvez. Un peu de foie gras, colonel.
Avec plaisir.
Vous permettez que je vous serve?
Je vous en prie. Merci.
Ces manœuvres vont durer longtemps?
Environ une semaine.
Mais votre femme ne vous accompagne pas?
Non.
Message de l'état-major pour le colonel.
Allez-y. Non. Les séparations, cela de bon qu'elles donnent du plaisir aux retrouvailles.
Mon colonel,
qu'est-ce que c'est encore? Si vous voulez bien m'excuser,
j'en prie. Alain Dutournier, Carré des Feuillants.
Un vrai chef, c'est un individu qui est prêt Parce que être chef, c'est pas que la cuisine. Parce que la cuisine, si on la vend pas, on sert à rien. Alors donc, parce qu'il faut faire vivre une entreprise. Alors être un vrai chef, je pense que c'est avoir un bon nez, avoir, je pense, une bonne sensibilité auprès des produits et tout, bien ressentir l'époque, le produit qu'il faut acheter. Et puis après, donc à limite, il faudrait avoir un peu la notion de cueilleur pour je sais pas, quand on est dans la nature, moi je suis très sensible à la nature, bien que j'adore Paris, mais s'il y a un arbre, je cueille pas n'importe quel fruit. C'est des légumes. Moi, j'adore quand je descends chez moi. J'ai une vieille maison dans les Landes. Quand je fais le, il y a un potager quand mes parents, mon père s'amuse à faire un potager. Quand je préfère une soupe. Bon, mais parce que le potage, c'est quelque chose d'important. Les gens veulent plus en manger, mais on va y revenir parce que le potage, c'est fondamental. C'est un plat. On peut faire un repas avec un potage. Ça coûte pas cher et c'est merveilleux. Mais je fais un potage. Je vais cueillir les légumes au fur et à mesure de la cuisson du potage. Et parce que les légumes, si on prend tous les légumes, on les met dans de l'eau, on fait bouillir. C'est sûr, on mange des légumes bouillis, ça goûte à rien. Mais il y a un ordre pour cuire les légumes, pour qu'ils soient bons au bon moment. Bon, mais que tout soit réuni, si on décide de manger vers midi et demi, vers une heure, bon, mais il faut pas mettre à cuire tout en même temps le matin à 9h en disant, bon, j'ai fait la soupe. Bon, on fait de la ragouignasse, mais c'est pas de la soupe. Alors, donc, je pense il faut avoir cette notion de cueilleur, un peu. Et puis, à côté, il faut, je pense, avoir une santé exceptionnelle. Si on veut être cuisinier... Et aller de l'avant, bon, mais en général, c'est des bêtes de combat, les cuisiniers.
Michel Piot, critique gastronomique du Figaro.
Un chef, d'abord je n'aime pas le mot, je préfère le mot de cuisinier, parce que chef, ça fait, c'est un côté un peu militaire, alors qu'un cuisinier, c'est un artiste. Et donc un cuisinier, pour moi, c'est quelqu'un qui apporte une ou deux fois par jour, deux fois généralement, du bonheur à ses contemporains. Il faut avoir un peu de don, mais vous savez, je ne sais plus qui disait que le talent, c'est un tout petit peu de don et beaucoup de travail, et je crois que c'est vrai pour les cuisiniers également. Et il faut être curieux. Il faut aimer terriblement son prochain, parce que finalement, si on retire un peu la poésie, mettre les mains dans la cuisine, c'est merveilleux, mais quelquefois, confronté, je ne sais pas, moi, soyons, enfin, pas de détails, mais confronté à des viscères de poissons, des choses, bon, ce n'est pas extrêmement réjouissant si on y réfléchit bien, donc il faut une grande dose d'amour. Il faut aimer les produits qu'on travaille et il faut aimer ceux pour qui on les travaille. C'est un artisan, c'est même plus qu'un artisan, c'est un artiste, au niveau le plus haut. Un bon cuisinier est un artisan, un très grand cuisinier est un artiste.
Bernard Loiseau, chef de la prestigieuse maison La Côte d'Or à Saulieu.
Eh bien, chef, il y a chef et chef. Vous avez le chef chez Jacques Borel et puis vous avez le chef d'une grande maison. Et le chef d'une pizzeria, vous avez le chef d'une grande maison. Mais disons que chef au niveau où j'en suis moi, c'est chef et puis c'est beaucoup de choses en même temps. C'est chef de cuisine, c'est homme d'entreprise, chef d'entreprise. Parce que maintenant, je dis que pour avoir un établissement comme ça, il faut avoir une gestion extraordinaire. Parce que croyez-moi, quand on a investi une fortune, moi j'ai dépassé 10 millions de francs d'investissement partant avec ma brosse à dents. Hein. Pas un centime d'apport personnel, puisque je vous expliquais que personne ne m'a jamais donné un centime. Hein. Donc tous les banquiers ont joué le jeu sur moi, ils ont dit bon, c'est peut-être un bon cheval, je suppose, j'en sais rien, on verra, c'est les années qui le diront. Et à partir de là, il faut absolument avoir un super comptable. Moi j'ai une comptable à demeure ici chez moi, tout, je commence à m'informatiser. Il faut savoir, il faut suivre, il faut voir connaître les ratios et tout. Vous savez, dans le temps du père Dumaine, le gars il est arrivé avec trois bouteilles de rouge, l'autre il lui donne un kilo de trucs. truffes, il y avait des échanges comme ça, vous voyez, c'était extraordinaire, il n'y a pas de facture, c'était une époque exceptionnelle. Alors que maintenant, il y a intérêt à faire attention, hein. Les truffes, ça vaut quand même, ça va se transiger à peu près dans les 1600 francs le kilo cette année. 1600 francs le kilo, mais ce que je veux dire, ça fait 16 francs les 10 grammes, il faut les peser, hein, les truffes, hein. Parce que si on met dans une assiette, on met des truffes en disant on va mettre des truffes, et vous allez vendre l'assiette 300 francs, les gens, ils vont déjà la trouver trop chère à 300 francs, et puis vous, ça vous coûte 350 francs parce que vous n'avez pas pesé les truffes. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses. Et puis il faut être décorateur, il faut être tout, hein, fleuriste. C'est un métier puis aussi de psychologie aussi vis-à-vis de la clientèle. Hein. Il faut bien avoir avec le client, quand le client il vient ici, il faut que chaque client qui vient ici, c'est comme s'il était connu depuis toujours et puis qu'on s'occupe de lui, le petit chien de madame et tout. Tout ça, c'est très important, hein. C'est un métier.
Culte culinaire, la femme a eu difficilement accès. Très longtemps parasite ou visiteuse, elle n'avait pas le droit de communier. Cuisinière, ménagère, même combat, elle a donc fini par prendre le pouvoir. Témoignage d'Adrienne Biazin, dite la vieille.
Une chef, ça existe parce que il y a quelques bonnes cuisinières dans la France. À Paris, nous avons Madame Massia, l'Aquitaine, qui est une femme extraordinaire. Vous avez Olympe, qui est tout à fait différente de moi. Il y avait Madame Carté, malheureusement, elle est partie. Pauline, ben, c'est son petit-fils qui a repris, mais enfin, qui reste un petit peu dans la tradition. À Paris, j'en connais plus beaucoup, moi. Et puis après, vous avez la province, qui a quand même des grands chefs, des femmes. Il faut quand même pas enlever ça, malgré qu'on nous avait mis un petit peu... Moi, je fais pas partie des chefs, hein, faut dire la vérité. Non. Mais il y a des femmes qui sont extraordinaires dans la cuisine. Parce que moi, non, j'ai un bistrot, je me considère pas comme un chef, non. Moi, je suis la petite bourgeoise, vous voyez. C'est vrai qu'ils m'y tenaient ses plats, mais vous me demanderiez de vous faire une pièce montée, tout ça, je vous dis honnêtement, non. Hein. Si je veux, je le ferais peut-être, mais non, c'est pas mon style, vous voyez.
C'est moi, quoi votre style, alors?
Ben, comme aujourd'hui, par exemple, nous allons faire des petits pintados en chartreuse. Demain, nous allons faire un bœuf carotte. Une autre fois, on va faire un navarin. Les plats froids, les plats chauds, vous voyez. Mais si vous me demandez de faire un marin américain, je le fais. Vous voyez, si les clients me demandent certaines choses, je le fais quand même. Mais je n'ai pas la prétention d'être une grande cuisinière, non. Pour moi, ce que je fais, c'est clair et net. Je ne fais pas de fond de sauce, je ne fais pas de tout ça, vous voyez. Qui n'a rien. Et quant à la pâtisserie, je fais ma petite mousse au chocolat, mes œufs à la neige. Ma crème caramel, mais je fais mes petits 4 quarts. Enfin, je fais très, très serré en dessert. Mais enfin, c'est ce que mes clients aiment. Par exemple, si je leur dis du foie gras, ils n'en mangent pas. Ceux qui ne viennent pas manger du foie gras chez moi, vous voyez. J'en fais très peu. Je fais mes tomates farcies en entrée, je fais mes terrines. Je fais mes petites entrées, on a toujours 5-6 entrées, vous voyez, que le client prend ce qu'il veut. Parce qu'ici, si on met un petit chariot, le client se sert lui-même.
Oui. C'est quoi la cuisine de femme?
Ben, y a deux différentes cuisines de femme. Par exemple, Madame Christiane Massia, c'est tout à fait différent de moi. C'est pas pareil. Olympe, c'est tout à fait différent.
Votre cuisine de femme?
Moi, c'est la cuisine bourgeoise pour moi. La cuisine des mères, comme des mères lyonnaises, comme on disait dans le temps, vous voyez. Mijoter. On met quand même, quand on fait un plat, on met 3-4 heures pour le faire, vous voyez. Vous faites un navarin d'agneau, il faut le faire cuire 3-4 heures.
Ose-t-on parler d'une cuisine d'homme? Non. Cela veut-il dire que la cuisine de femme n'existe pas? Non, éternel dilemme. La cuisine de mère existe, Adrienne vient de le dire. Cuisine et femme, cuisine de femme. Réponse de Christiane Massia, l'Aquitaine.
Oui, je crois que ça veut dire quelque chose. Et il n'y a pas tellement longtemps que je m'en suis aperçue. Je crois que c'est une cuisine... Bon, si je vous dis plus simple, c'est pas le mot exact, c'est plus... plus naturel, moins sophistiqué, moins travaillé, moins superposé. C'est une cuisine à base de produits. C'est une cuisine plus véridique. J'aime bien la cuisine des femmes. Et je trouve qu'elles la font bien et... Quand elles font cuire des aliments, par exemple, une fois cuits, elles n'y touchent plus avec les mains. Alors qu'un homme serait toujours tenté de faire une décoration avec des légumes, etc. Tandis qu'elles, c'est terminé. Elles vous serviront votre plat, elles installeront la sauce et ce qui va avec au mieux. Mais en aucun cas, elles ne superposeront une carotte, un navet et un petit pois au-dessus pour faire joli. Simplement parce qu'elles estiment qu'elles n'aiment pas la cuisine tripatouillée. Elles font dans la simplicité et elles pensent pas tellement au décor. Elles se prennent pas pour des artistes, mais pour des artisans plutôt d'un bel ouvrage. Et je crois qu'il y a quand même pas mal de plats qu'on doit aux femmes, qui sont quand même des plats pas négligeables dans la grande cuisine française, même dans la grande cuisine française. Encore que pour moi, la grande cuisine, j'estime qu'un avarin printanier, s'il est bien fait, ça peut être un chef-d'œuvre. J'ai pas besoin qu'il y ait des sculptures et des légumes découpés pour que ce soit de la grande cuisine. Je crois qu'il y a une bonne cuisine et il y a une mauvaise cuisine, c'est tout.
Qu'est-ce que c'est?
Nous voudrions dîner, le restaurant est fermé.
Mais non, monsieur.
Alors on peut entrer?
Bien sûr, un instant, s'il vous plaît.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Veuillez m'appeler le patron, monsieur Manuel, de la part de monsieur Thévenot.
Le restaurant a changé de direction depuis 3 mois.
Eh bien, bonsoir, madame.
Mais non. Je vous en prie, entrez.
Allons-y.
Le service est près de se terminer. On a fait 65 clients. Les entrées sont toutes servies. Et on va servir les derniers plats. Vous voyez, il reste une douzaine de clients à servir.
Il fait chaud ici, hein?
Ah ben là, de ce côté-là, oui, il fait bon. Non, mais là, dès qu'on passe ici, vous voyez, ça y est, hein, ça va. Voilà, alors maintenant, on va nettoyer les moules qui sont restés là dans les plaques. On va faire les inox. Alors bon, une cuisine, un piano central avec des feux et puis autour de chaque côté des cuiseurs à vapeur. C'est très pratique pour cuire les poissons et réchauffer les légumes. Puis derrière, des friteuses et un four. Là, en dessous, on a des frigos où on met les poissons qui sont prêts. D'ailleurs, ne rentre ici que des produits qui sont prêts à cuire. Dans cette zone qui est au vu de nos clients, puisque c'est ce que j'ai choisi un tout petit peu. On confine toujours à Paris les cuisiniers dans des placards, souvent. Hein. Et moi, j'ai travaillé dans un placard, hein, autrefois. Hein. Et puis, j'ai fait une cuisine un peu plus grande. Et maintenant, j'ai mis la cuisine en vitrine un petit peu, parce que dans le fond, c'est eux. C'est la cuisine, la réalité de ce qu'on mange, et qu'ils soient vus, qu'ils existent un petit peu vis-à-vis de la salle, on a tendance à les oublier. Alors eux voient les clients, c'est plus facile de faire à manger pour quelqu'un qu'on voit que quelqu'un qui ne représente qu'un petit morceau de papier, notre bon là qui est attaché au pass. Hein. Là on voit le client il passe, il nous dit bonjour en passant, il y a une forme de rapport qui est différente. Voilà, et puis pour les clients aussi, on existe un peu plus. Voilà.
Il n'y a pas foule. Mauvais signe.
Il est peut-être trop tôt.
Si on se mettait là.
Oui.
Florence.
Passe là-bas, toi. Si on commençait par les vins, mes bons amis.
Oh, mais oui. Ça dépend de ce qu'on va demander.
Qu'est-ce que vous aimez, le Bordeaux, le Bourgogne?
Bourgogne.
Moi, de toute façon, que je mange des huîtres ou du poisson, je marche au vin rouge. Alors hein. Bon.
Escargot chablisienne.
Oh, moi, j'aime pas les escargots.
Non?
Moi, je prendrais bien une terrine de lièvre, mais dans les restaurants, je crois que c'est toujours trop salé. Et ça l'est tout.
Il y a du melon.
Moi, c'est une bonne idée, je vais prendre un melon au Porto.
Je
prendrais bien du caviar, mais j'ai peur qu'il soit pas de très bonne qualité et qu'ils en donnent trop peu. Je préfère mon caviar à moi.
Qu'est-ce qu'il y a comme poisson?
J'aime beaucoup le poisson.
Eh bien, il y a des sardines grillées, des délices de sol, des merlans frits, de la raie au beurre noir, des quenelles de brochet nantuas, de la truite au bleu.
Il n'est pas cher, ce restaurant. Un restaurant pas cher où il n'y a personne, c'est inquiétant. Croyez?
Question qui a souvent été agitée parmi les gens du monde, de savoir s'il faut communiquer le menu du dîner aux convives ou leur en faire un mystère. Dans le premier cas, ils règlent leur appétit sur la nature des mets, ce qui paralyse le service et le fait languir. Dans le second, ils se livrent aux entrées, de manière que le rôti et les entremets ont souvent tort. Voilà sans doute deux grands inconvénients, mais comme le dernier est le moindre, attendu qu'un vrai gourmand a toujours de l'appétit de reste au service des bons morceaux, nous pensons que le menu doit être un secret entre le cuisinier et l'amphitryon. Éclaircissement du mystère, naissance du restaurant Jean-Paul Aron.
Les premiers restaurants apparaissent un tout petit peu et en tout petit nombre quelques années avant la Révolution française. Il est exact que jusqu'alors il y avait des endroits de restauration publique, mais c'était des auberges, c'était des tavernes où les gens mangeaient à toute heure du jour et à table d'hôte, si l'on peut dire, puisqu'il n'y avait pas de table particulière, de tables individuelles. Dans les années 1780-85, quelques établissements, mais au compte-gouttes, ouvrent et s'appellent restaurants, avec la formule, à l'époque très originale, de servir à certaines heures et plus n'importe quand et par table particulière. Et il faut attendre la Révolution pour que, paradoxalement, dans ce temps d'effervescence et bientôt dans ce temps de famine, pour voir apparaître en nombre beaucoup plus substantiel ces établissements qu'on nomme restaurants. Pourquoi sont-ils apparus dans une période qui semble si défavorable à leur éclosion? C'est parce qu'un grand nombre de cuisiniers, souvent du plus grand mérite, et qui travaillaient chez les grands seigneurs, chez les princes en particulier, et je cite deux d'entre eux qui avaient des bouches, comme on disait, c'est-à-dire des cuisines, d'une importance extraordinaire par le nombre de praticiens qui officiaient. Je cite les bouches, donc, du prince de Condé et du comte de Provence, qui chacun, dans leur cuisine, avait 50 personnes. Et c'était les plus remarquables, car et le comte de Provence, qui est devenu, comme on sait, Louis XVIII, et le prince de Condé, étaient des gourmets particulièrement sophistiqués. Mais beaucoup de grands seigneurs, de grands financiers, de gens dans la grande bourgeoisie qui essayaient d'imiter les pratiques de l'aristocratie avaient aussi des cuisines imposantes. Bref, avec la Révolution, avec les événements immédiatement dramatiques et vécus comme tels par les grands seigneurs, le prince de Condé est parti pour l'étranger le 15 juillet 1789. Un grand nombre de cuisiniers, de sauciers, de pâtissiers, de chefs de parti, comme on dirait encore maintenant d'ailleurs, se sont trouvés sur le pavé de Paris. Et pour s'employer, ils ont ouvert des commerces. Voilà comment naît le restaurant.
Est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi d'une bourgeoisie qui s'affiche et qui se montre en train de manger, par opposition à une aristocratie qui se masquait et ne montrait pas quand elle mangeait?
Alors là, il faut faire un saut. Et parvenant aux toutes dernières années du XVIIIe siècle et surtout aux premières du XIXe, et l'on voit à ce moment-là, effectivement, cette nouvelle classe parvenue au pouvoir, la bourgeoisie, chercher dans cet établissement, qui est tout jeune, qui a quelques années d'existence, un moyen de se faire reconnaître. Alors, aller dans des restaurants où l'on mangeait une cuisine généralement somptueuse, des restaurants où on est censé pouvoir être vu même de la rue, d'une certaine façon, c'était pour la nouvelle classe dominante, pour la bourgeoisie, férue de son propre spectacle, une aubaine extraordinaire.
Alain Chiffre.
Il n'y a pas de coupure entre la gastronomie et le système économique. Je vais être presque narcissique dans ce domaine. C'est-à-dire que la façon dont on se nourrissait au XIXe siècle ressemblait à la façon dont on accumulait l'argent. D'ailleurs, le ventre était bien vu, ça ressemblait à la bourse, à la rente. Hein, c'était des ventes de rentiers. La nouvelle cuisine, comme par hasard, correspond aux valeurs industrielles, aux valeurs dominantes qui ont été mises sur le marché à l'époque de l'expansion économique, c'est-à-dire rapidité des cuissons, chronométrage, etc., légèreté, une cuisine qui était faite pour, non pas pour assouvir un plaisir, mais pour travailler. C'est une cuisine presque pour maigrir. C'est quand même quelque chose de très nouveau. C'est que maintenant, vous avez une gastronomie de la minceur, des régimes gastronomiques, ce qui est inventé par Guérard et qui est maintenant très fréquent. C'est complètement nouveau, c'est-à-dire que la gastronomie ressemble, il n'y a pas de coupure entre la gastronomie et le monde des fast-foods. Et bien sûr, il y a une coutume, c'est un peu provocateur ce que je dis, bien sûr, il y a une coupure complète sur le plan de la qualité, mais sur le plan de l'idéologie, de l'état d'esprit, pour moi, c'est la même chose. C'est une adaptation à ce monde-là. Alors, malheureusement, ces valeurs du fast-food ne sont pas des valeurs de plaisir. Et quand, si vous voulez, quand vous allez dans un restaurant, vous avez envie de convivialité, vous avez envie de chaleur, etc. Vous n'avez pas envie de ces valeurs industrielles qui sont, par exemple, l'individualisme. Autrefois, la cuisine, vous aviez un grand plat qu'on vous partageait. C'était des valeurs de partage, convivialité, etc. Maintenant, vous avez toutes ces grandes assiettes individuelles, vous savez, avec la cloche dessus qu'on vous enlève, et chacun est seul devant son plat. C'est le triomphe de l'individualisme, qui est une valeur économique, mais qui n'est pas une valeur gastronomique pour moi, parce que pour moi, il n'y a pas de cuisine sans partage. Et c'est une cuisine qu'on ne partage plus.
Il a fallu attendre, après cette éclosion, cet envol de la cuisine des chefs au XIXe siècle, il a fallu attendre les années 1960, c'est-à-dire un siècle et des poussières plus tard, pour voir renaître une cuisine de chefs, avec la promotion des grands restaurants dont les chefs étaient propriétaires, Chapelle, Bocuse, etc., etc.
Et les chefs du 19e siècle étaient aussi estimés que ceux de maintenant. Ils étaient vantés par les critiques gastronomiques.
On n'a qu'à lire les romanciers. On n'a qu'à lire Balzac. On n'a qu'à lire Stendhal. Des écrivains plus mineurs. La gloire de Baleine du Rocher de Cancale est immense. Les frères provençaux, qui étaient en réalité des cousins, et qui s'étaient appelés les frères Provençau, leur célébrité est extrême. Les frères Véry, qui ont d'abord été sous le directoire, et puis au début du consulat, sur la terrasse des Feuillants, qui a été au niveau du bout de la rue, de l'actuelle rue de Castiglione.
Où il
y a le carré des Feuillants, qui ne s'appelle pas comme ça par hasard. La terrasse des Feuillants, qui a été démolie quand Napoléon a percé la rue de Rivoli. Il y avait à l'époque une très longue terrasse qui dominait le jardin des Tuileries, où il y avait toutes sortes de commerces, dont un restaurant qui avait déjà une très très grande réputation, qui s'appelait Véry. C'était des frères, ceux-là, d'origine lorraine, d'après ce que nous dit Grimaud de la Reynière. Et puis, quand ils ont appris qu'on allait percer la rue de Rivoli, ils sont partis, juste à temps d'ailleurs, et ils sont allés s'installer rue de Beaujolais, à côté du grand Véfour, qui s'appelait simplement le Véfour à ce moment-là. À côté d'eux, d'ailleurs, je le dis par parenthèse, à côté de Véry, qui lui-même jouxtait le Véfour, se sont installés dans un deuxième temps, ils n'ont pas été là tout de suite, les célèbres frères Provençaux. De sorte que l'actuelle rue de Beaujolais, depuis l'emplacement que vous connaissez du Véfour, presque jusqu'au coin de la rue de Valois, était une succession de tables royales dont les chefs étaient des gens extrêmement réputés.
On s'en est pour lécher de la vache enragée. On s'en est empiffré, on en a dégusté de la vache enragée.
C'est bien beau d'être un chef, mais comment le devient-on ? Réponse de Bernard Loiseau.
Moi, ça a commencé en 68. Moi, j'étais à l'école, donc j'étais élevé chez les curés à l'école Massillon à Clermont-Ferrand. Puis je suis resté en classe jusqu'à l'époque à peu près en troisième. Puis ça allait pas du tout. Alors mon père me dit, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses quelque chose. C'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Alors j'ai dit, bah oui, alors quoi? Alors moi, en plus, j'ai vraiment aucune vocation dans ce métier. Personne de ma famille n'est absolument dans le métier de la cuisine, rien du tout. Et il me dit, est-ce que tu veux faire cuisinier? Bah j'ai dit, pourquoi pas? Et il était représentant dans la bonneterie, donc il travaillait avec Juan. Donc il avait, à cette époque-là, il y avait la table d'hôtes, vous savez, il y a une vingtaine d'années, il y avait les représentants de commerce qui se retrouvaient, ils étaient tous autour d'une table, et puis ils racontaient tout ce qui se passait et tout, et puis donc ils mangeaient la nourriture améliorée du personnel qui faisait tout ça avec des petits prix, parce que bon, c'était quand même, il fallait des petits prix, quoi. Et puis donc mon père a eu une très bonne relation avec les Trois Gros, puis il me dit, si tu veux, je peux te faire rentrer chez Trois Gros. Bah, je dis pourquoi pas. Et donc je suis rentré en cuisine le 1er mars 68 en apprentissage là-bas à 17 ans. Et puis j'ai eu l'amour de ce métier, c'était au contact des produits. Parce que bon, moi je suis d'une famille assez simple. Et donc j'avais jamais vu des vrais foie gras, des homards, des produits d'une fraîcheur extraordinaire. Et pour moi, c'est le feu sacré est venu au travers des produits. Parce que je dis que 60% c'est les produits, quoi. Après il y a le talent qui vient et puis ça se fait tout seul après la cuisine. Alors mon apprentissage s'est passé c'était à l'époque à la dure, hein. On était encore avec le fourneau au charbon tous les matins, donc j'étais apprenti. Moi je suis parti complètement en bas de l'échelle, hein. Et donc j'étais apprenti, tous les matins j'arrivais à 6h30, 7h, monter les seaux de charbon et tout pour allumer le feu, on ramonnait le feu et tout, et puis on s'occupait de dégrossir tout, on vidait les poissons, on taillait les légumes, tout ça, et puis après on montait de grade petit à petit, parce qu'à cette époque-là, les Trois Gros, donc il y avait Pierre qui s'occupait d'une partie de la cuisine, Jean de l'autre partie de la cuisine, ils étaient tous les deux cuisiniers. Ils avaient beaucoup d'apprentis autour d'eux, donc ça a été une école fantastique pour moi. Parce que comme il y avait beaucoup d'apprentis, il n'y avait pas énormément de grands chefs de partie autour, qui fait qu'on avait des responsabilités rapidement. Alors que souvent, dans les grandes brigades dans le temps, il y avait les grands chefs de partie, il y avait les premiers commis, les deuxièmes commis, puis l'apprenti. Puis l'apprenti faisait cirer les godasses aux gars toute la journée, donc ils ne voyaient rien. Ils sortaient de l'apprentissage, ils ne savaient pas faire grand-chose. Alors grâce à cette école-là, bon, moi j'ai appris beaucoup de choses, et puis au bout de 3 ans, je me suis retrouvé au fourneau, à côté des frères Trois Gros, et ça c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça s'est passé en 71. Et cet apprentissage chez Trois Gros, ce qui est extraordinaire, c'est que est sorti de chez Trois Gros Guy Savoie, qui est un grand cuisinier de Paris, qui était avec moi en apprentissage chez Trois Gros, et puis plein d'autres, Ramé, qui était à Bordeaux maintenant, Daniel Métairy aussi à Paris. Et donc ça a été une école fantastique. Et après avoir quitté les Trois Gros, je suis donc parti à l'armée, où j'ai bien entendu été pris tout de suite par le colonel pour lui faire sa bouffe. Là, tu sors de chez Trois Gros, toi, pof, tout de suite. Et puis après, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer un personnage qui s'appelle Claude Verger, qui était propriétaire des barrières à Paris. Et là, autant même que Guy Savoie, puisque c'est moi qui ai fait rentrer aussi Guy Savoie dans les barrières, ça a été vraiment mon Johnny Stark. C'est-à-dire que, vous savez, dans une cuisine, vous avez le patron. C'est extrêmement rare que le patron dise aux journalistes « Ah non, c'est pas moi ici, c'est mon chef » et qu'il le fasse sortir de la cuisine et le fasse connaître. Il tire toujours les marrons du feu. Alors que Claude Verger dit « Ah non, ici c'est pas moi, le chef c'est Bernard Loiseau ». Et à 23 ans, j'étais déjà à la une du Point, de l'Express, de tous les journaux, parce que Claude Verger disait « Ah non, ici c'est Loiseau qui fait la cuisine, c'est pas moi ». Donc ça, ça a été extraordinaire, ça a été une rampe de lancement pour moi. Et puis Verger me dit « Bernard, c'est un bistrot qui est vraiment trop étriqué pour toi, toi qui as envie de rentrer dans les hautes sphères des guides avec les étoiles, les toques et tout, dans ce bistrot-là, t'arriveras jamais à t'exprimer. Alors il y a la Côte d'Or à Saulieu qui est en vente, et on m'a proposé. Mais comme moi je fais pas la cuisine, si tu es d'accord, on rachète la Côte d'Or, et un jour je te la donnerai, du moins je te la vendrai, et tu seras chez toi. » Et puis moi, 24 ans, j'ai pas réfléchi, j'ai pris ma brosse à dents, et puis mes couteaux, puis je suis parti à Saulieu. Et je suis arrivé là, le 1er mars 75. Et là, je peux vous dire, je suis rentré vraiment, j'ai foncé comme un taureau là-dedans. J'ai même pas cherché à comprendre, parce que je pense que ça serait à refaire. Je réfléchirais quand même, parce que ça a été quand même un lieu sacré ici, hein. C'était la plus grande maison de France ici. Il y avait Point à Vienne et Dumaine à Saulieu. Il y avait 3 étoiles au Guide Michelin, le monde entier passait ici. Lagacan passait des semaines entières, Colette venait écrire ses bouquins, c'était fabuleux, quoi. Puis à cette époque-là, vous comprenez, on prenait pas l'avion et le TGV comme aujourd'hui. Alors vous aviez tous les gens qui partaient de Paris, et puis en voiture, à cette époque-là, les voitures mettaient 4 heures, 5 heures, c'est l'arrêt obligatoire, premier arrêt, du Maine. Deuxième arrêt, point. Et après, l'Ousto de Beaumanière, et ainsi de suite. Alors bon, ben moi j'ai foncé, et puis j'ai attaqué, j'ai essayé de faire de la très bonne cuisine, amener une personnalité culinaire qui m'a fait peut-être un peu sortir du lot, justement. On en reparlera, c'est cette fameuse cuisine très légère qui est, à mon avis, complètement d'époque, et les gens font très attention à leur ligne, à tout, et je dis qu'on peut faire de la grande cuisine sans mettre de la crème partout, ça, c'est très important. Et puis après, bon, ben j'ai eu ma première étoile en 77, ma deuxième étoile en 81, j'ai eu 3 tocs 18 sur 20 en 78. À l'âge de 27 ans, j'avais déjà 18 sur 20. Actuellement, j'ai 19, je suis plus jeune cuisinier de France, à avoir 19 sur 20. Bon, et tout ça, ça a fait que j'ai pu m'en sortir, quoi. Et puis en 82, donc, comme c'était prévu, Claude Verger m'a dit, bon, ben maintenant, je te vends la Côte d'Or. Alors j'ai racheté la Côte d'Or. Et puis après, j'ai été voir les banques, et puis j'ai investi une fortune, j'ai acheté les murs, j'ai construit un hôtel, j'ai un parc au milieu et tout. Parce que je dis que maintenant, il n'y a pas que la cuisine qui compte, hein. C'est un ensemble. Il faut le confort, il faut le calme, il faut le repos. Donc ça, c'est très important. Alors j'ai axé tout ça là-dessus, plus l'accueil, le raffinement de la table et tout, quoi.
Venez, faisons la ronde, il y en aura pour tout le monde. Venez, il n'y a pas de raison, venez voir comme c'est bon. Faut pas faire les avares, faut que tout le monde ait sa part. Faut que tout le monde ait son jour, faut que tout le monde ait son tour. De vache enragée.
Je suis carrément arrivé en sacrifiant beaucoup de choses. Hein. Je suis quand même arrivé à l'âge de 24 ans, j'en ai aujourd'hui 36, et croyez-moi que je suis encore pas sorti de l'eau avec les investissements que j'ai faits. Et je suis là, je suis accroché au rideau, je m'accroche, et puis je dis on va s'en sortir. Et croyez-moi, j'ai des dettes énormes sur le dos, et je me dis mais de toute façon on va s'en sortir, on va y arriver, et puis on serre les boulons de tous les côtés, et puis j'ai aucun train de vie, rien du tout, j'ai sacrifié tout, toute ma vie privée, tout, je ne vis que pour ça. Bon, vous allez dire
que
ça.
Que pour ça.
Ah oui, que pour ça. Vous allez dire déjà à plein de gars, ils vont dire oh bon, y en a un paquet qui aurait déjà lâché. Hein. Ils auraient lâché le rideau, puis ils seraient partis. Hein. Parce que croyez-moi, il y a des jours ici où on est là, on regarde à travers les carreaux, puis on voit pas une voiture passer. L'hiver est très très difficile ici, hein. Très 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 dur. À partir du 15 novembre, pourquoi le 15 novembre? Parce que c'est la vente des hospices de Beaune, hein, des vins. Donc là, il y a du monde jusqu'à cette époque-là, et du 15 novembre jusqu'à Pâques. Alors Pâques l'année dernière était le 18 avril, croyez-moi qu'on a souffert. Hein. Là cette année, j'ai vu en 88, il est 8 avril. Alors déjà je commence à respirer parce que les départs vont commencer vers le 25 mars. Comme les échéances c'est le 30, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça va être juste ric-rac quoi. Actuellement, si vous préférez, j'attends que la poule chie un œuf quoi pour payer quoi. J'ai rien d'avance quoi, je suis au jour le jour. Donc il faut vraiment serrer les boulons de tous les côtés quoi. J'ai tout sacrifié, moi, tout.
L'itinéraire de Joël Robuchon, un des plus grands toqués actuels, qui tient en ce moment le restaurant chez Jamin.
Il y a 27 ans, j'ai commencé donc dans le métier. J'ai commencé à 15 ans, suite à une situation familiale difficile, parce que j'avais une vocation, mais qui n'était pas du tout celle-ci à l'époque, j'étais au petit séminaire, vous voyez, donc c'était pas du tout la même chose. Et donc, suite à une situation familiale difficile, je me suis retrouvé un petit peu seul et il a fallu que je travaille. Et lorsque j'étais au séminaire, le moment de détente, c'est lorsque j'allais aider les religieuses. Et donc, j'ai dit, bon, bah, choisir un métier, je vais faire la cuisine, au moins c'est la détente, je voyais le plaisir. Je suis comme ça, sans vocation de départ. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le métier. Et puis, je crois que ce que j'ai eu beaucoup de chance, vous savez, lorsqu'on est adolescent, on est beaucoup plus réceptif. Et adolescent, j'ai rencontré des cuisiniers qui étaient passionnés pour leur métier, qui en plus étaient des compagnons du Tour de France, qui ont su m'apprendre l'amour du travail bien fait, avec un sens, une éducation, une moralité tout à fait exceptionnelle, et qui m'a beaucoup servi, parce qu'en fin de compte, j'ai retrouvé un nouveau foyer, une nouvelle famille. Et vous savez que la réputation de la cuisine française, c'était quand même la cuisine régionale, c'est la cuisine régionale. Donc étant compagnon du Tour de France, il a fallu que je circule, que je voyage, et ça m'a permis d'apprendre toutes les techniques, tous les nouveaux procédés, tous les produits, parce que vous savez, les produits locaux, souvent, peut-être moins maintenant, parce que maintenant, les transports fonctionnent beaucoup mieux qu'il y a 27 ans, mais 27 ans, les meilleurs produits, mais de toute façon, c'est encore le cas, les meilleurs meilleurs produits sont toujours rares et restent souvent locales et ne sont pas exportés. Donc j'ai pu découvrir ces produits, puis plus également cette cuisine régionale à l'époque. Et vous savez, une cuisine faite par exemple à Marseille n'aura même pas le même goût faite à Paris. Il y a une cuisine de terre, il y a une cuisine de ciel, il y a une cuisine de mer. Hein. Donc quand vous mangez la cuisine sur le lieu du produit, il a toujours un goût différent. Une choucroute mangée en Alsace n'aura pas le même goût si vous la mangez à Paris. Donc en étant compagnon de Tour de France, en voyageant, ça m'a permis de découvrir toute cette cuisine, donc d'apprendre la technique et la maîtrise.
Le témoignage de Vincent Giraud, jeune chef pas encore toqué, actuellement au Fête Gourmande.
Au départ, j'ai quitté une première C parce qu'il y en avait marre. Et puis le premier boulot, ça a été débarrasseur dans un self. Et puis après, ça a été serveur dans un restaurant très cher où on servait des épinards en boîte et où les gens venaient en fait par amour propre. Ça, c'est une dimension dont beaucoup de professionnels n'ont pas assez conscience. C'est que le fait de dépenser 200-300 francs pour soi en une soirée pour manger, c'est un plaisir d'amour propre aussi. Et puis après, ça a été décision. Je me suis rendu compte que d'une part, je préférais manipuler les choses beaucoup plus que vendre. Donc, j'observais le cuisinier que j'avais dans la maison où j'étais comme serveur. Et le premier chef de cuisine qui m'a étonné, je me suis embauché à 20 ans à 80-85 heures au SMIC pendant un an. Et allons-y. J'ai appris une cuisine classique superbe, mais que depuis, qui est absolument pas d'actualité, qui est en plus beaucoup, beaucoup trop coûteuse. D'un chef qui, bizarrement d'ailleurs, avait une très, très belle cuisine, mais tellement mauvais caractère qu'il fait maintenant, il a un bistrot et un menu à 45 francs derrière le bois de l'enseigne. J'ai un restaurant de 22 places, donc j'ai aucune puissance d'achat auprès des gens chez qui je vais chercher, donc je vais tout chercher moi-même. Donc on démarre à 7h30 le matin, pour être ici à 10h. Et puis on termine environ à 2h30, on reprend à 5h30, et on termine vers 11h30, minuit. À partir de là, contrairement à ce qu'on voit dans les yeux des gens, c'est pas vrai, on travaille pas pour l'argent. On travaille pas autant pour l'argent. C'est un choix de rester là, il n'y a rien à faire. On a, à partir de là, il faut être conscient qu'on ne fait que de la cuisine. On ne peut pas prétendre élever des enfants, c'est pas vrai. On ne peut pas prétendre, à mon avis, avoir une vie de couple intense, c'est pas vrai. On n'a pas le temps. Donc, il n'y a que ça.
C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne.
Adrienne, dite la vieille, qui fait une cuisine de mère et qui a commencé dans un bistrot où elle n'était pas censée faire la cuisine. Pas censée. Mais si on le lui demandait, elle passait de l'autre côté, du bon côté, celui du fourneau.
On commençait vers 3h30, 4h du matin. C'est-à-dire, je commençais déjà par faire les employés, parce qu'ici, il y avait les bouchers en gros, donc tout le tour. Les employés, ils venaient manger vers 1h30, 2h. Et après, c'était les mandataires, tout ça qui venaient, mais qui restaient là jusqu'à 10h, 10h30. Ils recevaient leurs clients ici. Vous savez que dans les Halles de Paris, tout se faisait au bistrot. Tous les marchés se passaient pratiquement autour d'un verre. Alors, ils venaient, ça discutait, et puis dans la fleurie, ils vendaient leurs marchandises et pour le lendemain, les commandes et tout. C'était comme ça que ça se passait. Et ils m'apportaient leur casse-croûte, comme ça se faisait beaucoup. Par exemple, les bouchers amenaient leur viande, les volailleux. J'avais même des marchands de poissons qui m'apportaient des marchands de poissons. Alors, on me disait, aujourd'hui, tu vas nous faire ça, un bœuf à la ficelle, ou un bourguignon. À cette époque-là, on faisait beaucoup de bourguignons. Petit salé, on faisait. Pot-au-feu. J'ai débuté dans les Halles de Paris en 1945 comme employé, bien sûr. Septembre 45. On louait des liables, on travaillait la nuit. Là. On commençait à 11h30, minuit à minuit, jusqu'à 10h30, 11h du matin. On faisait le cycle des Halles, en somme, les Halles de Paris. Et puis, je suis resté jusqu'en 58 chez mes patrons, là, rue Vauvilliers. Et puis, un beau jour, j'ai eu la chance d'avoir ce petit bistrot, qui était un bistrot ici, en gérance. Et je travaillais toujours la nuit avec les mandataires, tout ça. Et j'avais, à cette époque-là, je ne me rappelle plus, moi, 27-28 ans, à peu près. Et puis, un beau jour, j'ai eu 6 clients qui sont arrivés. Un lundi, je me rappellerai toute ma vie, c'était un lundi, et on m'a demandé de leur faire un repas le midi. Alors j'ai dit non, je ne fais pas de restaurant, on travaillait encore un petit peu avec les Halles de Paris, mais c'était la boucherie qui restait, vous savez. Et puis les gens autour, parce qu'il y avait encore quand même pas mal de mandataires qui étaient restés. Et je ne voulais pas leur donner à manger. Puis ce jour-là, j'avais deux poulets qui cuisaient dans le four, comme c'était au mois d'août. On devait aller avec une de mes amies à moi pique-niquer. Et alors, ils nous ont dit, ça sent bon. Ben, j'ai dit, oui, on fait cuire des poulets pour nous, pour aller les manger. Ce soir, on devait aller chez Michou, sur sa terrasse, à Montmartre. Et je dis à ma copine, en rigolant, non, c'est des beaux garçons, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse faire ou quoi? Elle me dit, bah oui, tant pis, va, elle dit, on ira au restaurant. Et on leur a fait cuire les poulets, on leur a fait manger les poulets, puis on leur avait donné une tête de... On avait fait un pâté de tête, ils ont mangé les poulets rôtis avec des frites. Pas des fautes parce que je fais pas de frites, mais des pommes sautées, et puis du fromage, et puis une crème caramel. Et puis là, le lendemain, ils sont venus. Ils sont venus comme ça pendant quelques jours. Et puis, une quinzaine de jours après, j'ai un client qui me dit non, parce qu'il m'appelait toujours la vieille. Il a 25 ans, il m'appelait déjà la vieille. Alors il me dit, dans la vieille, qu'est-ce que c'est que tu as fait? C'est quel article que tu as dans Minute? J'ai un article dans Minute. Un article fabuleux. Finalement, on a su que c'était Maurice Baudouin et Philippe Coudert. Et c'est grâce à ces deux messieurs que j'ai démarré dans la restauration, qui m'ont poussé à faire de la restauration, parce qu'ils m'ont dit « Oh, vous faites des plats comme les grands-mères, tout ça, continuez. »
Alors, on est dans votre cuisine. Ça fait combien, ça, c'est... Elle est petite, hein?
Ah oui. Ah ben ça, c'est ce que je dis, c'est pour ça, la cuisine est toute petite. Alors, vous voyez, j'ai un fourneau, là. Il y a deux fours. Et puis là, et bien, j'ai une petite salle au premier où on fait la vaisselle et tout quand même. Hein, Et là, je peux pas m'agrandir, bien sûr. Si je m'agrandis, il faut que je change de quartier. Et ça, le quartier, je le quitterai pas pour un empire. Hein.
Alors là, cuisine de maison, quoi.
Ah oui, hein? de ménagère. Il y a des ménagères qui ont des cuisines plus belles que les miennes. Hein. Maintenant, avec le modernisme, vous savez... Attendez, je suis en train de faire ma mousse au chocolat, là. Et... Ah non, mais maintenant, il y a des cuisines de vous savez que maintenant, les femmes, elles ont des cuisines de professionnels.
Et pas vous?
Ben non, parce que je peux rien faire d'autre. Hein. Je peux rien faire d'autre ici, moi. Bon, enfin, je m'arrange quand même, pardon. Je m'arrange quand même pour faire mon travail. Hein. Attendez, je cherche ma pelle. Voilà. Alors, on a fait nos petites tomates farcies. Vous voyez, ma farce, elle est là. On en a déjà préparé. Puis j'ai ouvert des moules parce qu'aujourd'hui, je vais faire une salade de moules et de coques. Et puis, je suis en train de faire mes pintados et puis de la choucroute. On est en train de la préparer. Et là, je fais ma mousse. Et là, je fais ma crème anglaise, vous voyez, qui est déjà prête. Et je fais... Là, je n'ai pas encore eu le temps, mais je fais mes œufs à la neige que je les moule à ma façon. Mon gâteau au chocolat, mais ça, c'est prêt déjà. Ce matin, j'ai déjà travaillé tout ça.
Alors, combien de personnes travaillent avec vous?
Trois. Ma sœur, la petite et moi-même. Et puis, l'après-midi, ben, je passe mon temps à faire ma vaisselle. Parce que j'ai une pièce là où on fait la vaisselle. Et la vaisselle, on la fait tout d'un seul coup.
Bon, alors, vous allez nous donner un melon au porto.
Bien sûr.
Un melon naturel. Vous allez donner, pour la dame qui est là, un roll-mops. Ensuite, vous allez donner, pour la dame qui est là, un melon. Car on a tous pris des hors d'œuvre différents.
Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie?
C'est le patron, madame. Il est mort brusquement cet après-midi.
Ce qu'il y a surtout, c'est que moi, je suis emmerdeuse, en parlant vulgairement, excusez-moi de le dire. Je trouve que c'est jamais assez bien. Que quand un client laisse un tout petit bout de viande dans l'assiette, je me dis pourquoi qu'elle n'est pas bonne. Alors je vais le voir, me dis mais non, il y en a trop. Et des fois, j'ai vu la goûter moi-même en cuisine, hein, rien lui, parce que je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Puis non, il m'a dit non, j'ai trop mangé, je me suis laissé prendre pour entrer et tout. Et ça m'est plus d'une fois quand je vois qu'un client laisse. Ça ne serait qu'un petit bout, je dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et je vais voir mon client, il me dit, oh, non, je vous en prie, c'est pas... Non, il m'a dit, c'est parce qu'on a trop mangé.
La bonne cuisine, c'est aussi la quantité?
Il faut quand même leur en mettre un peu dans l'assiette. Moi, je ne suis pas du tout... je ne vais pas me faire mettre des... c'est tout à fait différent. Chez nous, c'est tout à fait différent. Si je sers un bœuf carotte, par exemple, un bœuf en daube, je ne vous mets pas une tranche, je vous en mets trois. Mais on la met à part, on ne la met pas dans l'assiette. Le client prend ce qu'il veut, vous voyez. Et ça, c'est... J'ai vu des fois des clients me faire trois fois des pommes de terre sautées. Alors des fois, je rouspète. Parce que j'ai dit, oui, mais ça, il faut 20 minutes pour faire une pomme de terre sautée. Hein. Des fois, je dis, mince alors. Hein. Des fois, je me dis, bon, quand ils vont ailleurs et qu'il y a trois carottes et puis un petit poireau, ils disent rien. Alors je rouspète. Puis, ils ont leurs pommes de terre. Ça un peu. Bon, je suis resté vieux jeu, voilà, faut dire la vérité.
Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie?
C'est le patron, madame. Il est mort brusquement cet après-midi. Nous l'aimions tous beaucoup.
Il est mort dans ce costume?
Mais pourquoi vous le gardez ici?
Les pompes funèbres ont promis de passer, madame. Vous voyez, nous les attendons. Bien entendu, nous restons à votre service.
Ah non, moi je m'en vais. Je ne veux pas manger ici.
Mais pourquoi?
Enfin, Raphaël, vous n'y songez pas.
Moi, ça m'est égal.
Je peux vous assurer, messieurs, dames, que vous ferez un excellent dîner.
Non, moi je m'en vais.
Bon, si vous voulez, sonne.
Allons ailleurs.
Moi, si ça ne vous dérange pas, je préfère rentrer à la maison. Vous pouvez me raccompagner?
Oui, avec plaisir.
Les plaisirs de la bouche, Alain Dutournier.
La cuisine, pour moi, je n'y ai jamais... Enfin, je n'ai pas réfléchi, étant donné que je suis né dans une petite auberge où ma mère et ma grand-mère faisaient la cuisine. Et d'entrée, j'ai appris à regarder, à sentir, à observer tous les produits. Bon, c'était une époque où on avait encore la chance d'avoir des produits avec beaucoup plus de goût que maintenant. Donc j'ai commencé à aimer manger très jeune. Mes parents étant très occupés, j'ai appris très vite à être autonome pour me préparer à manger, pour participer. Puis j'avais pas le choix. À l'époque, on parlait pas beaucoup de vacances ou autre chose. Donc, mon jeudi ou mon dimanche, j'aidais mes parents. Alors, j'étais bien obligé de mettre la main à la pâte dès mon plus jeune âge, à tous les niveaux. Et pour moi, la cuisine, c'était un aboutissement Dès l'âge de, je sais pas, de 8 ou 9 ans, je disais, j'ai l'intention de faire d'être cuisinier, parce qu'en plus, j'associais la cuisine au voyage. Pour moi, c'était le moyen pour partir d'un petit village, pour aller cuisiner sur un bateau, ou comme ça, ou à l'étranger, dans d'autres pays, pour voir, quoi. J'invite des amis cuisiniers chez moi dans les Landes, je leur fais manger des œufs de ferme et ça y est, c'est le déclic, c'est parti, des œufs, des piments du jardin, une tranche de jambon et puis c'est fabuleux, c'est un repas merveilleux. Et les gens n'osent plus faire ça chez eux, n'osent plus recevoir comme ça. Alors il faut réapprendre aux gens à manger des bons œufs, ce que sont des bons œufs. En 73-74, au Trou Gascon, quand j'ai débuté, je faisais des omelettes de petits poissons comme ça. Et il n'était pas rare, toutes les semaines, on avait un problème avec des clients. Je faisais venir les œufs de ferme de chez moi, emballés dans du papier journal. Il n'y avait pas d'alvéoles, rien du tout là chez nous. Et je faisais transporter, c'était tout un cirque. Et les gens, quand on leur servait l'omelette, ils se plaignaient. Ils disaient, écoutez, dites au chef qu'ils mettent un peu moins de colorant dans ses œufs, ou comme ça, ou c'est des œufs en poudre. Alors j'avais mon numéro au point, j'arrivais tout gentil avec le sourire. J'avais une assiette, un œuf que je cassais, une fourchette, je crevais le jaune, et je disais, voilà avec quoi l'omelette a été faite. Alors les gens étaient là, mais c'est pas jaune, c'est orange. Je dis, oui, mais les œufs que vous alliez en Gascogne, en Bretagne ou ailleurs, les œufs, ils sont, des œufs de ferme, c'est coloré, c'est autre chose. On est devenus vraiment des gens qui respectent pas les produits que l'on a. Et il suffit d'un déclic, hein. Nous, on a une association dans le sud-ouest, là, de cuisiniers, où on a fait revivre des tas de produits. On a fait revivre l'agneau de Pauillac, mais pas grâce à notre passion, le bœuf de Bazas, qui était une race en train de disparaître. Moi, je sers du bœuf de Bazas, je vous promets, j'aurais meilleur temps d'acheter un bon bœuf à Paris, qui serait tendre, que je peux vendre tout de suite, ou qui coûte bien moins cher. Et les clients me diraient, ah, il est bon, il est très bien cuit et tout, terminé. Bon, moi, je fais du bœuf de Bazas, je m'embête avec les producteurs là-bas pour avoir des bêtes de plus de 5 ans. J'ai une mûrisserie à viande ici, je fais rassir 3 semaines en mois ma viande avec, bon, de la dessiccation, de la perte. On sert une viande où il faut argumenter souvent, parce qu'il y a des gens, même après 3 semaines, un mois, qui nous disent « c'est quand même un peu ferme, c'est vrai que ça a du goût, mais c'est un peu ferme ». Je dis « heureusement, vous le sert pas avec des, vous mangez pas avec des baguettes, vous avez des couteaux qui coupent, mais il faut réinitier ». Les Français mangent essentiellement du baby bœuf, du bœuf aux hormones, on a parlé du veau, mais le bœuf n'a plus de goût.
Fernand, dans son restaurant, fait tout. Ses saucisses, ses terrines, son camembert, son beurre, son pain. Il fait son beurre, mais il est dans le pétrin. Pétrin d'une vie de chef qui veut toujours faire mieux. Nature et vérité, le tout relevé d'un petit tour de sel de Guérande, le credo de Fernand.
La bonne cuisine, c'est la cuisine la plus simple, avec les produits les plus simples et naturels, bien sûr. C'est la cuisine simplement faite, et avec des produits naturels, sans mais ça faut pouvoir les trouver. Ça existe, mais faut pouvoir les trouver, parce que les veaux qui sont, comme on dit, sous la mer, c'est pas souvent vrai. C'est souvent vrai, mais comme la mer n'est pas forcément naturelle, alors tout qui en découle.
Ouais. Oui, mais pour arriver au naturel, c'est tout un travail de sophistication, justement.
Pour arriver au naturel, faut revenir 30 ans en arrière. Je reviens encore en Normandie, parce que j'ai fait la boucherie en Normandie. Mon patron a acheté des vaches, on appelait des bêtes d'herbage. Alors on avait une viande merveilleuse, on la laissait reposer maximum 15 jours en frigo. Alors là on ressortait des quartiers de viande croûtées, c'était extraordinaire à manger. Bon, ça c'est fini maintenant, parce que le stockage est 15 jours. Un boucher va pas garder sa viande 15 jours dans le frigo, parce que d'abord elle va suinter maintenant. La viande ne se conserve plus pareil, il va y avoir un suintage et il y aura une perte énorme. C'est normal. Et à partir du moment où les bêtes sont piquées, il n'y a plus de conservation possible. On peut conserver 8 jours, 15 jours, mais enfin disons que la qualité, ça n'arrangera pas pour ça la qualité.
Christiane Massia.
Pour moi, ça a toujours été une passion. Parce que quand je me suis mariée, j'avais 18 ans, je n'étais pas vraiment obligée de me mettre à faire la cuisine tout de suite. Et je me suis mise tout de suite, par passion. Et alors, coup de chance terrible, le premier plat que j'ai fait, un peu compliqué, j'avais invité des amis, ils ont trouvé ça bon, ils n'arrêtaient pas de dire c'est la grande cuisine, c'est très très bon, etc. Ça a été la chance de ma vie. Je me suis dit, mais je suis faite pour ça. Enfin, c'est quand même... Je suis une manuelle, j'adore travailler de mes mains. Et la cuisine, ça se fait pas uniquement dans la tête. Il faut être assez habile.
Et c'était quoi, ce plat?
Oh, c'était un plat tout simple. Un jarret de veau aux légumes. Mais je le faisais cuire avec... Je mettais pas tous les légumes en même temps. Je le faisais un petit peu braiser au four. Je le faisais avec soin. Et après, je l'ai répété. Et plus je le répétais, plus j'y faisais attention. Parce que il faut pas se laisser aller. Il faut essayer de garder la même émotion, même quand on fait un plat pour la 50e fois. Et cette émotion, on peut l'avoir à condition d'avoir des produits frais. Parce que si vous travaillez des produits congelés, le produit congelé se comporte toujours de la même façon. Le produit frais change. change, si c'est un poisson, change avec la pêche. Si c'est un légume, les carottes de printemps et les carottes d'hiver ne sont pas du tout les mêmes. Elles ne demandent pas du tout le même temps de cuisson ni de préparation. C'est quand on commence à préparer le plat, si on n'a pas une certaine émotion jusqu'à la fin de sa préparation, on ne sera jamais un bon cuisinier. Vous voyez, quand je mets un poisson dans une assiette et que je mets la sauce, il faut vraiment que ce soit très très bien. Je goûte tout. Et goûter, c'est 50% de la réussite. Si vous ne goûtez pas et que c'est trop salé ou pas assez salé, ou il peut y avoir un défaut minime, mais grave. Goûter, c'est voir aussi, si vérifier si on n'a pas commis d'erreur dans la préparation. Parce que la cuisine, c'est quelque chose qui change tout le temps. On ne peut pas être sûr de soi, travailler vraiment avec des mesures. Ou... C'est pas possible. C'est pas de la chimie. Mais la cuisine, c'est tout à fait différent. Il se passe quelque chose. Les produits ne réagissent pas souvent de la même façon. C'est difficile d'apprendre à quelqu'un à faire la cuisine. La cuisine, c'est toujours une histoire d'amour. On dit toujours que c'est un métier dur. C'est pas un métier dur, c'est un métier vraiment un métier d'amour qu'il faut aimer. D'abord, on vient travailler deux fois par jour. Alors si on n'aime pas ça, vous vous rendez compte?
France Culture, Nuit Magnétique, toute cette semaine, Les Plaisirs de la Bouche, fin de la séquence numéro 1.
Moi, j'ai lu ça une fois, je crois que c'était dans Go Emilio, quand on a bien mangé, ce qu'on appelle un bon repas, c'est quand on sort de table avec une légère faim. Alors, je trouve ça hallucinant. Et ça, c'est toujours pareil, c'est parce que la gastronomie et les valeurs économiques sont les mêmes. Pourquoi une légère faim? Parce qu'il faut avoir des dents de loup pour devenir créateur d'entreprise, pour se battre, tout cet univers quoi, du nouveau capitalisme. Avant, on mangeait pour faire la sieste et éventuellement faire l'amour. Enfin, ça allait. Brigand Savarin, par exemple, disait pour lui, le repas était les préliminaires de l'amour. Hein. Maintenant, c'est les préliminaires d'une journée de bureau. On va citer trois contrats. Quoi.
Les plaisirs de la bouche, Louise Buñuel, Les charmes discrets de la bourgeoisie, Fernand, Gérard Almandou, Michel Crisolde, Joël Robuchon, Georges Blanc, Jean-Michel Lorrain, Alain Dutournier, Michel Piot, Vincent Giraud, Bernard Loiseau, Adrienne Biazin, Christiane Massia, Jean-Paul Aron, Alain Chiffre. Plaisir de la bouche, Philippe Sourdon, Yann Parentehen, Bruno Sourcy, Laure Adler. On se retrouve demain pour Les plaisirs de la bouche numéro 2, le goût, le plaisir, l'invention.
C'était la première de 4 émissions des Nuits Magnétiques consacrées au plaisir de la bouche, et diffusée pour la première fois le 29 décembre 1987.